Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Bonjour à tous, je suis Alice Vaché et je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Ingrid Picard, la directrice RSE du Centre National de la Mer, Nausicaa. Salut Ingrid, je suis absolument ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Bonjour Alice.
Alors, qu'est-ce que Nausicaa ?
Alors, Nausicaa, c'est l'aquarium du Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer. C'est un aquarium à mission. C'est un équipement qui est ouvert depuis 1991. Et en plus de 30 ans, on a accueilli près de 20 millions de visiteurs à qui on explique les enjeux autour de l'océan.
Alors en plus, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout exploré dans l'empreinte. Parce que, alors c'est pas à l'image, j'allais faire une comparaison, mais tu vas me reprendre. Oui. Les eaux, c'est pas la même chose, même si c'est du milieu maritime.
Oui.
C'est le même fonctionnement quand même,
c'est le même esprit, oui, tout
d'accord.
À fait. Alors, on a la même approche de conservation. Après, ce qui va être différent chez nous, c'est qu'on va avoir d'abord une approche écosystémique. Où en fait, on va considérer l'animal dans son environnement global, avec toutes les interactions qu'il peut y avoir avec le milieu. Et on considère tous les besoins des poissons, en fait.
Oui, c'est un petit peu, c'est pour ça que je posais la question, parce qu'en effet, sinon, c'est quand même pour qu'on voit des variétés de poissons, etc. Ouais. Mais j'avais noté une approche beaucoup plus de sensibilisation au milieu naturel.
Complètement. En fait, depuis le début, à l'origine du projet, donc ça fait plus de 30 ans maintenant, on a toujours souhaité sensibiliser nos visiteurs à l'environnement marin. Donc, quand on traite un sujet, on va d'abord penser aux enjeux de l'océan, aux enjeux pour la planète. Et en fait, on va aborder des expositions en fonction de ce que l'on a envie d'expliquer. Par exemple, la perte de biodiversité, le changement climatique, la montée des eaux. Et en fait, on va faire tout un parcours d'exposition où on va aller dans différents lieux du monde et on explique ces différents enjeux. Mais en général, on prend toujours... déjà, on fait des voyages d'études et on va expliquer la vie des hommes et leur lien avec l'océan et leur lien avec la planète.
Génial. Mais alors, du coup, je vois une... Alors, forcément, quand on veut montrer des espèces qui sont un peu éloignées, il y a forcément une empreinte, un impact... pour les importer, ces espèces-là.
Oui.
Comment est-ce que vous faites pour le minimiser au maximum ?
En fait, on est un équipement qui a déjà quelques années. Donc, en fait, on a minimisé parce que nos pensionnaires sont là depuis le début, depuis très longtemps, qu'ils se reproduisent, que maintenant, en fait...
Donc, il n'y a plus trop d'import maintenant d'espèces ?
Quasiment pas, parce qu'en plus, en fonction de ce que l'on souhaite expliquer, de ce qu'on veut faire, on va solliciter les collègues en disant « on aimerait bien faire une exposition sur tel sujet, est-ce que vous avez tels animaux ? Est-ce que vous avez des petits à nous confier ?» Et nous, de la même façon, on dit « bah là, on a des animaux qui sont un peu plus gros et on a envie d'en faire profiter les collègues. » Et donc, les autres aquariums viennent chercher les animaux.
Oui, donc en fait, finalement, c'est un écosystème entre vous pour éviter d'aller puiser plus loin d'autres espèces.
Complètement.
Et comment est-ce que vous parvenez à recréer cet écosystème, cette biodiversité au sein de vos aquariums ? C'est des études
Oui, en fait, l'équipe qui gère les aquariums est biologiste. Et donc, ils vont avoir à chaque fois une approche pour les besoins vitaux des animaux. Et ils vont reconstituer les écosystèmes qui leur conviennent.
Parce qu'ils n'auront pas les mêmes prédateurs, ils n'auront pas les mêmes...
Ça dépend desquels. Par exemple, si on a un animal qui est plutôt territorial, par exemple un mérou, il va être quasiment tout seul dans son aquarium. Alors que, par exemple, si on parle du lagon, on va avoir tous les animaux qui vivent dans le lagon avec les interactions. On va avoir les animaux qui sont plutôt herbivores et donc qui potentiellement vont brouter un peu le corail. On va avoir les animaux qui sont carnivores. C'est normal de reconstituer l'écosystème. Après, ils sont bien nourris chez nous, donc l'instinct de prédation est moindre.
On est tous complètement attirés par la nourriture. Et l'autre enjeu, c'est l'eau quand même. Est-ce que vous avez des engagements sur l'eau ou pas du tout ?
Alors, on a des engagements sur l'eau, notamment parce que on souhaite mesurer nos impacts océans. Donc, ça passe par l'eau. Alors, si vous pensez à l'eau de mer que nous utilisons, en fait, on est dans un circuit où on va pomper l'eau de mer. Ça passe dans nos filtres et ensuite, elle repart en eau qualité, eau de baignade. Donc, en fait, c'est un circuit en lien avec...
Qui va où, du coup ?
Dans la mer.
Dans la mer, ok. D'accord, donc c'est un circuit fermé, il n'y a pas de déperdition d'eau finalement.
C'est un circuit ouvert avec la mer.
Oui, ouvert avec... Bon, fermé du coup avec la mer. Les espaces sont rejetés, quoi. Il n'y a pas de déperdition. Hyper intéressant.
À part éventuellement l'évaporation, mais qui est un phénomène
naturel. Oui, bien sûr. Et au-delà de simplement de la déperdition, est-ce que vous avez des engagements pour préserver l'eau, cette ressource, enfin d'autres engagements, peut-être via des associations, des trucs comme ça? Enfin, au-delà même de ce que vous faites au sein de l'aquarium, est-ce que vous êtes engagé au-delà, en fait ?
En fait, comme on travaille avec, à chaque fois avec les habitants ou les associations qui sont sur place et que l'on valorise les exemples de bonnes pratiques dans nos expositions, on travaille en étroite collaboration avec eux. Par exemple, il y a quelques années, on a mis en place une exposition sur Madagascar et donc on a travaillé avec des associations locales de Madagascar, que l'on a valorisé dans nos murs, en expliquant comment on élève les holothuries, donc ce sont les concombres de mer, comment les élevages de crevettes sont gérés là-bas. Donc on explique que l'on replante de la mangrove, que les crevettes sont bio, qu'elles sont label rouge. Et donc en plus, on valorise la ressource et on explique que des populations vivent de ces élevages, en fait.
Et est-ce qu'il y a des espèces qui, chez vous, disparaissent et d'autres qui arrivent ? Est-ce que vous allez retirer certaines espèces et en amener de nouvelles ? Ou s'il n'y a jamais de... C'est horrible de parler de réassort ou de... C'est un peu produit, mais est-ce que parfois, en fait, vous vous dites, cette espèce-là, on l'a beaucoup vue, on aimerait sensibiliser sur telle nouvelle espèce et donc il faut de la place, donc on va...
On se sépare assez peu de nos animaux. Globalement, les populations sont stables, sauf, comme je vous disais, si par exemple on a des poissons qui ont bien grandi et donc on préfère les confier à d'autres aquariums pour qu'ils aient plus de place. Et sinon, on peut avoir de nouveaux animaux uniquement dans le cadre de nouvelles expositions.
Oui, donc c'est un peu éphémère et ça repartirait.
En général, quand on ouvre une exposition, elle reste.
Ah, c'est des expositions...
On a très très peu d'expositions temporaires avec des animaux. Ou alors, on a fait des expositions temporaires, mais on les a conservées.
Et c'est quoi les autres enjeux auxquels vous faites face en matière de développement durable, mis à part l'eau, la biodiversité et l'énergie, j'imagine ?
Tout, en fait. Là, actuellement, on finalise notre bilan carbone. Donc, en fait, on mesure tous nos... Donc, on a choisi de mesurer vraiment en scope 3, donc très large. Et donc, il va y avoir la mobilité, il va y avoir les achats. On a une politique d'achat responsable. Donc, en fait, on va mesurer
tous
nos gestes. Sur la
nourriture, j'imagine, en plus.
Par exemple, sur le fonctionnement de l'aquarium dans sa globalité.
Mais tiens, justement, ça c'est intéressant sur la nourriture. Comment est-ce que vous nourrissez vos espèces ?
Alors, on a la chance d'avoir un partenariat avec une entreprise locale qui nous donne des produits de la mer qui partiraient en destruction. Donc, en fait, il y a une grosse partie qui sert, qui est une démarche anti-gaspi par rapport aux produits de la mer.
Donc, en fait, on recycle des produits Issus de...
Bah oui, par exemple, des coproduits. Ouais. Si, par exemple, on fait des filets de saumon, il reste la tête, il reste...
D'accord, mais on peut nourrir toutes les espèces avec ça ?
Oui, quasiment, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui mangent d'autres poissons, ou sinon, il y a des végétaux aussi, mais dans ces cas-là, on a un approvisionnement qui va être différent. Sur les végétaux, par exemple, ou même pour nos reptiles, on va aller chercher du plantain.
Tout est local, en fait.
Sur des entreprises locales.
Il n'y a pas beaucoup de gaspillage. Même vous,
très peu.
Très peu. Hein. C'est pas... Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans votre bilan carbone ? C'est l'eau, non ?
Non, pas du tout.
C'est l'énergie ?
Non, c'est les déplacements de nos visiteurs. On accueille 900 000 visiteurs chaque année.
Ah, bah oui, scope 3. Bien sûr. Et comment vous pouvez faire, d'ailleurs, pour réduire cette empreinte ?
Les inciter à venir autrement.
Mais est-ce qu'il y a des transports pas loin ?
Oui, alors on peut facilement venir à Nausicaa en train. À partir de la gare de Boulogne-sur-Mer, il y a des navettes qui sont régulées pour arriver aux mêmes horaires que les trains. Enfin, la navette est là quand vous descendez du train et ensuite vous pouvez arriver à Nausicaa.
Ok, donc en fait, oui. Il y aurait... oui
donc ça pourrait, ou le covoiturage. Ou. Après, on est sur la véloroute maritime, donc on va aussi avoir pas mal de visiteurs qui vont venir en vélo. Puisqu'en fait, on est le long de la véloroute qui part des Pays-Bas et qui va jusqu'en Bretagne.
Et c'est un peu isolé d'autres choses ? Ou il y a d'autres moyens de faire autre chose à côté ? Parce que je n'ai jamais été là-bas.
Alors, en fait, Nausicaa se situe entre la plage et le port de Boulogne.
Bon,
et donc, on peut facilement se promener en vieille ville. On peut également aller jusqu'à Vimereux, qui est une très belle station balnéaire. On peut faire du char à voile juste sur la plage. Donc, il y a vraiment possibilité de s'installer pour un week-end sur Boulogne.
Ouais, c'est ça un peu pas rentabilisé, mais
rentabiliser de le trajet.
Exactement.
Oui.
Ouais. Et toi, alors, pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler là-bas ? Tu étais passionnée ou pas ? Par l'univers
Alors, je pense que j'ai toujours été attirée par la mer et par les animaux.
Pourquoi tu penses ? Tu n'es pas sûre ?
J'en suis sûre, mais à mon avis, ça a déterminé mon choix de travailler à Nausicaa parce que ça me parlait. Et je m'y suis tout de suite trouvée dans mon élément. J'ai eu la chance d'avoir un directeur qui était océanographe et qui souhaitait qu'on soit très juste dans tout ce que l'on abordait. Donc, il m'expliquait tous les enjeux autour de l'océan et qui voulait vraiment qu'on soit très précis scientifiquement. Et donc, en fait, je me suis nourrie de ça. Et en fait, je pense que c'est ce qui m'a amenée à porter la RSE à Nausicaa.
Et alors, c'est quoi les perspectives de votre programme RSE ? Enfin, de votre, je parle du groupe, hein. je ne parle pas du tout en vous moment. C'est quoi les perspectives ? Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas. En fait, comme ce n'est pas une entreprise habituelle pour moi, ce genre d'interview, du coup, les questions, les perspectives, en général, on essaie de réduire son empreinte. Mais vous, comme vous n'avez pas de nouveaux animaux marins ou autre chose, ça reste un peu sur le même roulement, j'ai l'impression.
Bah, en fait, on fait de la RSE depuis que l'on est ouvert, en quelque sorte, puisque dès le départ, on a souhaité sensibiliser nos visiteurs à l'environnement marin. Mmh. Et en fait, le fait d'engager une démarche et de faire un état des lieux de nos pratiques nous permettait d'homogénéiser toutes nos actions et tous nos gestes, quel que soit le sujet. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait quelques améliorations sur la partie environnement ou sur, par exemple, la qualité de vie au travail. C'est là qu'on a mis en place la démarche, la politique d'achat responsable. Et en fait, tout ce qu'on veut, nous, c'est réduire au maximum notre impact. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un bilan carbone. C'est aussi pour ça que là, on va être audité pour avoir une labellisation océan. Donc, en fait, c'est la Fondation de la mer qui a mis en place.
Ah, ben, on l'a eu, la Fondation de la mer, océan. De la mer voilà. dans l'empreinte, oui, tout à fait.
Et donc, nous, en fait, on veut mesurer notre impact par rapport à l'océan. Et donc, on va mesurer notre impact sur l'exploitation des ressources, sur les différentes pollutions et sur tous les sujets transverses. Et donc, en fait, on va s'imposer une démarche d'amélioration continue.
C'est ce que couvre le label, c'est ça ?
Le label. Donc, on va faire ça grâce au label. Et on va faire ça également grâce au bilan carbone, puisqu'on va savoir
quels sont nos axes de progrès. Ok. Mais je ne connaissais pas ce label. Il est sorti il y a combien de temps ?
Je pense que ça doit faire 5 ans. Nausicaa a été un des sites pilotes pour la création du label, donc on a participé en amont. Maintenant, on a envie, nous, d'être labellisés. Et en fait, on peut rester pendant 2 ans au niveau 1, donc c'est déjà la mise en place du label et des actions. Et ensuite, dès Donc la troisième année, il faut que l'on ait des objectifs d'amélioration sur tous les indicateurs du label.
Oui, puisqu'en plus, vous êtes une vraie vitrine, pour le coup, de l'écosystème marin.
Complètement.
Donc, et est-ce que, alors, petite question, les eaux sont pas mal controversées en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'import d'espèces, etc. Est-ce que les aquariums, c'est pareil ou pas du tout? Vous subissez pas du tout le même type de remarques?
Ça peut. Le fait d'avoir des animaux peut...
Parce que c'est quand même en espace fermé, en espace clos.
Complètement. Ça peut perturber une partie de la population, et ce qui est tout à fait normal. Après, il faut mesurer aussi tous les messages que l'on a pu diffuser auprès de nos visiteurs, les 5 millions de scolaires qui ont pu être sensibilisés sur l'environnement marin. Donc, c'est sûr qu'on peut se poser la question. Mais d'un autre côté, je pense que notre impact a été tellement... positif, parce qu'on a accueilli plus de 20 millions de visiteurs depuis notre ouverture. Et donc, en fait, je pense qu'on a fait évoluer la façon de percevoir l'océan, et on a rendu accessible certains sujets que l'on ne pourrait pas percevoir autrement.
Oui, en plus, pour le coup, c'est sous-marin. On ne voit pas, il faut aller faire de la plongée, tout le monde n'a
voilà,
pas...
Voilà, et donc c'est assez inaccessible.
Oui, tout à fait.
Et alors, moi, ce qui m'a frappée dans mon parcours, c'est qu'en fait, par exemple, on avait organisé la semaine du requin pour expliquer... les requins étaient menacés, qu'en fait, c'était plus... Enfin, qu'il fallait les protéger plus que les craindre. Et donc, on a mis ça en place assez rapidement, je pense qu'il y a plus d'une dizaine d'années. Et quand les journalistes venaient nous voir, en fait, ils nous demandaient au départ si c'était dangereux de plonger avec les requins. Et au fur et à mesure, ils sont revenus plusieurs années de suite. Et les mêmes journalistes, finalement, nous posaient la question, alors... Il y a vraiment 100 millions de requins qui sont tués chaque année. Et rien que ça, en fait, on avait gagné sur la sensibilisation par rapport à l'animal.
Et comment vous avez fait, du coup, cette semaine de sensibilisation? Il y avait des requins? Vous avez fait venir plusieurs...
Non, pas du tout. En fait, on faisait venir des gens qui travaillaient avec les requins, ou des gens qui avaient une expérience particulière avec les requins, ou des spécialistes des requins. Par exemple, on a travaillé pendant de nombreuses années avec le CNRS, un spécialiste des requins, et on apprenait à nos visiteurs à connaître les requins.
D'accord, donc sans forcément qu'il y ait l'espèce.
Il y avait des requins chez nous, oui. Ils pouvaient les voir, mais c'était des conférences sur les requins et sur l'importance de les préserver.
Et est-ce que, alors là je suis un peu utopique, est-ce que vous pourriez justement permettre puisque vous faites vous-même c'est pas de la procréation, mais vous permettez de régénérer les espèces, oui. qu'elles se reproduisent, est-ce que vous pourriez faire ça par exemple pour les requins? Alors il faudrait des gros aquariums, hein, mais est-ce que ce serait... Je sais pas, moi je pense que si j'avais des aquariums, j'aimerais peut-être préserver des espèces.
Dans l'absolu, on pourrait, on aimerait. Il y a des eaux qui le font, qui arrivent à le faire avec des oiseaux.
Tout à fait.
Et c'est vraiment extraordinaire. La seule chose, c'est que déjà, on a la vigilance justement de la diversité génétique. Il faut vraiment qu'il y ait une diversité génétique pour qu'on puisse mettre l'animal dans le milieu naturel. Et après, il faut encore que les conditions soient réunies pour qu'il puisse retourner dans le milieu naturel. Si on remet un animal dans un endroit où il vit habituellement, mais que l'endroit est pollué ou qu'il y a une construction qui ne permet pas à l'espèce de vivre, ça ne va pas servir à grand-chose. Il faut vraiment que ce soit possible du début à la fin de la chaîne.
D'accord. Et c'est quoi alors la prochaine exposition?
La prochaine exposition, ça devrait être sur les abysses.
Pourquoi ce choix?
Parce qu'il y a un réel enjeu sur les fonds marins, sur les grandes profondeurs et sur l'exploitation des abysses qu'il faut protéger avant d'exploiter.
Et ça, on pourra l'avoir à partir de quelle date? Est-ce que tu sais ou pas?
Pour moi, c'est l'année prochaine.
Ah, c'est 2024?
2024.
C'est bien, l'épisode sera sorti avant.
Oui.
Est-ce que tu aurais des choses à ajouter qu'on n'aurait pas vues ensemble? Ou t'aimerais me parler?
Je trouve que le fait de parler de la RSE, de l'engagement des entreprises, c'est vraiment très, très important. Et en fait, c'est en parlant et en échangeant entre nous qu'on fait vraiment avancer les choses et que l'on progresse. Donc, merci pour ce rendez-vous et merci pour ça. Et après, je pense que la RSE, ça se vit. Ça se vit dans sa vie au quotidien, sa vie de tous les jours. Et pour rentrer dans une démarche RSE, il faut vraiment... être moteur et le porter.
Eh bien, merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.